Virginie Langeroc.
Le Hamas n'a pas accepté l'offre de cesser le feu dans la bande de Gaza qui avait été proposée par les États-Unis. C'est ce qu'affirme l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff. Par ailleurs, des altercations ont eu lieu aujourd'hui à Jérusalem lors des célébrations annuelles qui marquent l'occupation par Israël de la partie orientale de la ville. Le ministre israélien d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, s'est rendu sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est, une visite considérée comme une provocation par les Palestiniens et les pays arabes. Le premier ministre israélien a par ailleurs de nouveau promis de ramener tous les otages, les vivants et les morts, retenus par le Hamas à Gaza, à l'heure où son armée bombarde intensément le territoire palestinien, faisant aujourd'hui au moins 52 morts selon les secours à Gaza. À Liverpool, dans le nord de l'Angleterre, une voiture a foncé ce soir sur la foule. On ignore encore les causes de cet incident, alors que les joueurs de football défilaient dans la ville pour fêter la victoire de leur club en Première Ligue. Un homme est décédé hier soir dans les locaux de la police municipale à Lausanne. Il avait été arrêté un peu plus tôt pour des soupçons de trafic de drogue, indique le ministère public. Une instruction pénale a été ouverte. À Genève, la SLOCA s'inquiète d'une nouvelle pratique de résiliation de bail. Selon l'association des locataires, des propriétaires prétexteraient de travaux à effectuer pour demander le départ des habitants, puis augmenter le loyer des logements. Des appartements dans une dizaine d'immeubles seraient concernés. Au Canada, de nombreux habitants se réjouissent de la venue aujourd'hui de Charles III. Le souverain britannique effectue une visite hautement symbolique de 2 jours dans ce pays dont il est le chef d'État. Un accueil chaleureux donc des Canadiens, comme une façon pour le pays de clamer haut et fort sa souveraineté face aux menaces d'annexion de Donald Trump. Une dizaine de pays de l'Union européenne ont réclamé aujourd'hui une révision de la loi contre la déforestation, dont l'entrée en vigueur avait déjà été décalée à la fin 2024. Dans un document soutenu par 9 pays, dont l'Italie et la Finlande, ses États membres estiment que les exigences imposées aux agriculteurs restent trop élevées, voire impossibles à mettre en œuvre. Parmi les organisations environnementales, le WWF a condamné une nouvelle tentative de démantèlement de cette loi. L'Union européenne avait donc déjà reporté d'un an jusqu'à la fin de cette année l'entrée en vigueur de ce texte sous la pression du Brésil, des États-Unis et de l'Allemagne. En tennis, Stan Wawrinka n'a pas passé le cap du premier tour à Roland-Garros, battu en 3-7 par le Britannique Jacob Fernley. Il n'aura pas fêté comme il le voulait les 10 ans de son titre parisien. Demain, il y aura du soleil après un faible risque d'averse en matinée. L'après-midi, le soleil sera bien présent, notamment autour du Léman et en Valais centrale. Les températures remontent, il fera un maximum de 21 degrés.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. De nuit comme de jour, RTS Première.
C'est des animaux qui nécessitent une certaine éducation. Ils ont besoin d'un cadrage pour qu'ils puissent être bien dans leurs pattes. Donc pour nous, le terme garderie, c'est correct. Un enfant a besoin aussi de comprendre les règles du quotidien, il doit comprendre ses limites, il doit gagner de la confiance en soi-même, il doit apprendre des nouvelles capacités, il doit avoir des journées où il se sent stimulé. Et c'est exactement pareil pour les chiens.
Vacarme. Vacarme.
Tel maître, tel chien.
Raphaël Bouchet et Laurence Di Félix.
Que ferait-on sans nos compagnons à quatre pattes? 552 000 chiens vivent sur le territoire suisse. Chiens de ferme ou chiens de sac à main, poilus, rasés, mignons, ronchons, bourrus, méchants, chacun de ces animaux vit une histoire particulière avec son maître ou sa maîtresse. Depuis le Covid, le nombre de chiens par ménage a pris l'ascenseur. Dans certains cantons comme Zurich, ce nombre a presque doublé en 5 ans. Que se passe-t-il? Que révèlent tous ces toutous de nos besoins, nos goûts, nos angoisses, nos passions et nos difficultés? Dans cette série de reportages, nous allons rencontrer des binômes humains-chiens dans ce qu'ils ont de riche et de complexe. Nous nous promènerons des concours canins au salon de toilettage, des hôpitaux où les chiens soignent les malades, aux scènes de théâtre et jusqu'au cimetière pour animaux. Notre premier épisode est consacré au pet parenting. C'est une tendance qui vient des États-Unis, où de plus en plus de propriétaires de chiens se comportent comme de véritables parents avec leur animal. Certains préfèrent même adopter un chien plutôt que de se jeter dans l'aventure de la parentalité. Nous rencontrerons tout à l'heure les heureux propriétaires de Java, qui ont vu leur couple bousculé par l'arrivée de leur berger australien. Mais nous avons d'abord rendez-vous avec Bérénice et Laszlo.
Voilà, ta banane est prête. Laszlo, assis. Assis. Ouais. Hop.
Oui. Bravo.
Qu'est-ce que je dois prendre? Ouais. La banane et ta laisse. Oui, ta laisse. Voilà. Bisous, tout prêt.
Bébé poilu, reportage Cécile During, réalisation Rodolphe Beauchaud.
Non, on va pas en parc, on va à droite.
Donc là, on va où, Bérénice?
On va à la garderie de Laszlo. C'est une garderie pour chiens. C'est un super endroit vers Beaulieu, où il va passer la journée avec tous ses potes chiens, faire plein d'activités et des balades. Il adore aller là-bas.
Et ça fait longtemps qu'il y va ?
Depuis qu'il a 4 mois, il en a 9. Du coup, ouais, ça fait déjà un moment, c'est un habitué de la garderie.
Et il va combien de jours par semaine ?
Il va, en règle générale, un jour par semaine. Il y a 2 jours où il est en tout cas avec moi. Et puis après, les 2 derniers jours, soit c'est Zachary, mon copain, soit des amis à moi qui le gardent. Voilà, ça c'est un peu la semaine de Laszlo. Donc quand je le laisse à la garderie, les 5 premières minutes, il pleure, un peu comme un enfant. Puis il joue avec ses potes et je suis oubliée pour la journée.
Là, vous dites il pleure comme si c'était un enfant, l'idée de la garderie. Est-ce que vous vous sentez comme une maman pour lui?
Alors, comme une maman, peut-être. Sa maman, non. Sa maman, je l'ai rencontrée. C'est une super chienne qui vit dans le canton de Fribourg. Je ne suis pas un chien, mais... Je pense que dans la charge de l'éducation, de l'organisation, de l'amour que je lui porte, ça peut s'y assimiler, oui. Laszlo ?
Ouais.
Non ? Ah, tu veux aller là, ok. Moi, je m'estime être une personne assez indépendante, humainement parlant. Mais je pense qu'il y avait des moments où je me sentais assez seule, où j'avais envie d'une compagnie en plus. Et puis, c'est quelque chose que les humains ne m'apportaient pas. Du coup, ouais, pour moi, avoir un chien, c'est ouais, un compagnon de vie, quoi. Un espèce de partenaire... Pardon.
Il tire.
Oui, parce qu'il y avait des bonnes odeurs par là-bas. Il est un petit peu saoulé par la pluie. Même avec son manteau.
Oui, j'ai vu, vous avez mis un petit manteau de pluie.
Oui, parce qu'en fait, c'est un caniche. Et puis du coup, quand il pleut, il est très très vite mouillé jusqu'à la peau. Et puis, ses poils mettent beaucoup de temps à sécher. Du coup, le manteau, ça, c'est plus de confort pour lui et pour moi. C'est pas pour le style.
Mais pas que votre chien ait du style?
Ah non, si, j'aime beaucoup. Mais ce manteau-là n'est pas pour du style. Sa petite doudoune hivernale l'est un petit peu. Enfin, grosse doudoune, parce que c'est un gros chien, mais voilà.
Bérénice, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez plutôt une jeune femme indépendante. Vous avez 27 ans. Un chien, comme vous dites, c'est assez contraignant. Est-ce que ça vous restreint dans certaines activités?
Alors, pour le moment, oui. Vu qu'il fait son anxiété de séparation, je dois, ça me demande plus d'organisation. Alors, boire des verres, il n'y a pas de problème. S'il n'a pas une journée trop intense, il m'accompagne. Mais c'est vrai que sortir, ça me demande de l'organisation, il faut que je le fasse garder, il faut qu'il puisse aller dormir chez quelqu'un. Du coup, je sors de manière moins spontanée.
Allez, viens. C'est Laszlo. Viens.
Donc là, on est devant la garderie?
Ouais. Là, on peut voir à la fenêtre déjà tous les chiens qui sont arrivés plus tôt, qui sont en train de nous observer arriver. Et puis là, il faut juste monter le petit escalier. Bonjour. Ça va?
Ça va et toi?
Oui.
Allez, viens. Coucou-toi, t'es tout mouillé.
J'ai trop
frisé. T'es tout frisé. On va enlever ça. On va juste fermer derrière.
Vous n'êtes pas obligé de mettre son manteau hein, quand vous sortez. Hein. Je l'ai mis pour qu'il soit un peu moins trempe.
Non, mais il y en a plein qui ont mis leur manteau, donc on le mettra. Et ça va, il tolère bien la pluie, non?
Oui. Par contre, ce matin, j'ai pas eu le temps de le nourrir. Est-ce que dans la matinée, c'est OK de le faire? C'est là, dans un sachet crotte.
On verra tout de suite, comme ça, on pourrait l'isoler un petit moment pour qu'il digère bien. Il sera avec un groupe de joueurs, donc c'est mieux de le faire le matin que plus tard dans la journée.
OK.
Et sinon, tout va bien?
Tout va bien. Toujours ado. Toujours des jours où il est un petit peu... C'est un petit peu un harceleur sexuel, comme ça. Mais...
Laszlo, on en a parlé de tout ça.
Mais non, ça va.
Ok, parfait.
J'ai l'impression.
Non, mais il était tip-top la dernière fois, donc...
Pardon, c'est tout étrange.
Je suis confiante.
Trop bien. Ben, merci beaucoup. Et puis, je reviens, je pense, vers 18h.
Ok, parfait.
Super.
On reste ensemble, Laszlo. Tu viens avec moi? Par ici. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, super. On reste ensemble. Ouais. Bon, alors Laszlo, il sera avec un groupe de joueurs. Mais on va commencer à le mettre dans le bureau pour le nourrir.
Mélissa Taol, vous êtes la directrice de Woofy, de cette garderie pour chiens. Comment vous est venue cette idée de créer cet espace?
Alors, j'ai un petit chien de 9 ans qui est venu d'un refuge en Espagne. Il est arrivé quand il avait 5 mois et il a une nature très anxieuse, très stressée. Et pendant très longtemps, j'ai pas réussi à trouver un service de garde qui lui convenait. Du coup, je me suis dit pourquoi pas créer un espace avec une attention un peu plus douce qui non seulement garderait mon chien, mais qui contribuerait aussi à son développement pour qu'il ait plus de confiance, pour que j'arrive à coexister, à partager une vie avec lui avec plus de facilité. Et j'ai ouvert Woofy en mai 2024. C'est un hôtel-garderie éducatif. Donc on offre des services de garderie de jour, d'hôtel pour une garde de nuit.
Et normalement, le terme de garderie, c'est plutôt pour les enfants. Pourquoi on utilise ce terme pour des chiens?
C'est des animaux qui nécessitent une certaine éducation. Ils ont besoin d'un cadrage pour qu'ils puissent être bien dans leurs pattes. Donc pour nous, le terme garderie, c'est correct. Un enfant a besoin aussi de comprendre... les règles du quotidien, il doit comprendre ses limites, il doit gagner de la confiance en soi-même, il doit apprendre des nouvelles capacités, il doit avoir des journées où il se sent stimulé. Et c'est exactement pareil pour les chiens. Ils doivent être stimulés au long de la journée. Ils doivent avoir des limites et comprendre les règles pour qu'ils puissent, eux, avoir une vie qu'ils apprécient. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui sont très similaires entre l'éducation des chiens et des enfants. Après, c'est pas pareil.
Un peu de peine à se séparer de sa maîtresse?
Exactement. Zoé, c'est une chienne qui vient au moins une à deux fois par semaine depuis septembre l'année dernière. Mais elle a beaucoup d'anxiété de séparation. Donc à chaque fois, l'arrivée, elle est toujours un peu plus difficile. Et le départ, dès qu'elle voit sa maman ou son papa, ben, on n'existe plus du tout.
Vous dites maman ou papa?
Oui, on dit maman ou papa.
Première raison, c'est que de devoir dire propriétaire 50 fois par jour, c'est pas évident. Mais pour nous, dire maman et papa, c'est un peu plus, ça reflète la réalité un peu plus. Parce que c'est vraiment des membres de la famille. Enfin, c'est des bébés pour les maîtres, des bébés poilus. Donc pour nous, c'est correct d'insinuer que c'est des enfants. Je veux quand même faire la distinction que juste parce qu'on dit maman et papa, ça ne veut pas dire qu'un chien est un enfant. On comprend très bien que c'est une réalité totalement différente, mais il y a des dynamiques qui sont très très similaires. Donc pourquoi pas utiliser le même vocabulaire. Newty, say hi. Coralie, il y a Eloi, il y a les chiens du lounge qui sont un peu perturbés là. Je sais pas si à un moment vous pouvez juste aller les soulager un peu. Donc ici, on est dans le lounge. C'est un espace avec plein de différentes surfaces douillettes. On met de la musique classique, du jazz pour détendre les chiens. L'objectif de cette salle, c'est que les chiens puissent vraiment décompresser, se détendre. Donc chaque chien passe au moins quelques heures dans cette salle quand ils font leur rotation. Ici, on est dans la salle de jeu. C'est un espace qui est dédié pour la stimulation physique des chiens, avec des escaliers, avec des bacs qui contiennent tout type de jeux, de jouets. On a un petit dinosaure. On a différentes boîtes où on peut mettre des friandises, etc. pour des jeux de recherche. Et on a aussi des puzzles, quelque part, ici.
Des puzzles?
Oui, des puzzles pour chiens, comme un puzzle pour enfants. L'idée, c'est qu'on cache des friandises dans des jeux où le chien doit bouger certains éléments pour avoir accès à la friandise.
Et dans cette armoire, il y a quoi?
Alors ici, pour chaque chien, on a une petite boîte où on met sa laisse, sa nourriture. Donc c'est des boîtes noires en plastique. Et dessus, avec une craie, on va écrire le nom du chien. Donc ici, on a Chelsea. Et on va mettre la laisse, le harnais de Chelsea.
C'est un peu le vestiaire.
Exactement. Je pense que d'ailleurs, dans les garderies, je me souviens, quand j'étais enfant, j'avais aussi une petite boîte à mon nom. Donc on a une Zoé, Laszlo, Vanny, Haruki, Parnilia.
C'est des prénoms qu'on retrouve chez les enfants?
Oui, absolument. Personnellement, j'adore quand des chiens ont des noms, des prénoms de humains.
Pourquoi?
C'est marrant.
Bernadette.
Vous avez un chien qui s'appelle Bernadette?
Bernadette, oui.
Exact. Il est tellement gentil en plus.
C'est un peu bizarre, non, d'appeler son chien avec un prénom d'humain, non?
Ça représente bien le train, un membre de la famille. Newton n'aime pas cette question. Newton ne veut pas qu'on se remette en question par rapport à notre relation avec les chiens. Il veut qu'on continue à le traiter comme un enfant.
Je te regarde pas.
Newton!
Qu'est-ce qui s'est passé là?
Oh mon Dieu, tu nous as vraiment sali tout le canapé. Bon. Heureusement qu'on est à la Chine. Petit accident, Newton a décidé de marquer le canapé. Les chiens mâles non castrés, souvent, ils n'arrivent pas à résister l'envie de marquer à l'intérieur parce que les chiens communiquent aussi entre eux à travers les marquages. Et pour maintenir quand même un degré d'hygiène qui est très important pour nous, on a des petits pampers, des couches. Donc c'est des bandes qu'on met autour de l'estomac des chiens mâles qui couvrent leur pénis, ce qui fait qu'on arrive à garder les lieux propres.
C'est des couches comme pour les bébés.
Comme pour les bébés, oui. On a des pampers pour différentes tailles de chiens. Ça commence de small, medium, large, extra large. Donc là, j'ai une couche avec des dessins d'œufs. Très mignons, noirs. J'en ai en jaune, on en a en bleu clair, mais je pense qu'ils sont dans la machine parce qu'ils sont tous lavables. J'ai des pampers extra larges pour des chiens de 30 à 50 kilos avec des petits dessins d'escargots, champignons, des petits lions, girafes. On va mettre une petite couche jaune avec des œufs. Parce que Vanny, c'est un Shiba couleur beige. Et quand on peut, on essaie d'assortir C'est comme une petite ceinture et bim, c'est fait. Ça nous prend 2 secondes de le mettre. Et puis comme vous le voyez, le chien, ça lui fait aucune différence.
Ah. 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 derrière, donc on va le faire passer devant.
Oh, mais alors! Mais alors! Mon chien!
C'était un peu plus intense que la fois précédente. Okay. Je l'ai quand même senti un peu plus stressé que les fois d'avant. Donc, il y a eu quelques situations où, avec les autres chiens, ça montait en tension. Et puis, je l'ai entendu grogner, etc. Alors qu'il fait rarement ça. Ouais. Mais sinon, il a bien joué avec Luna. Aussi avec Vanny à un moment donné. Et Caspian.
Okay.
Mais sinon, tip top. Okay. Je vais juste dire au client que...
Je fais twint en attendant.
Combien la journée chez Wifi?
C'est 65 la journée.
Voilà, c'est twinté.
Non, mais sinon, il était vraiment tip-top. Hein. Vraiment rien à s'inquiéter.
Ok, trop bien. Alors, merci beaucoup.
Merci.
Bonne soirée.
Ciao, Laszlo.
C'était bien, Laz. Alors, c'était cool.
Oh là là.
Oh, mon chien.
Oh, t'es fatigué, hein.
C'est bon là. Java, il est où Ilias? Quand elle trouve pas tout de suite, c'est un peu le stress. Il est où Ilias? Il est où? Il est là? Tu l'as trouvé? Ah bah oui, elle l'a trouvé.
Attention, pas d'accident. Il est
bien. Bah il était où alors Ilias?
Il était caché dans la baignoire. On se cache derrière les portes, sous la couette, dans la baignoire, c'est... Donc je suis Laura, et puis dans la famille, ben, derrière vous, on a Ilias, mon mari, et puis aujourd'hui, on a aussi ma mère, Christine, qui est en visite pour quelques jours. Et sur mes genoux, ben, on a Java, le chien de la famille, qui a 2 ans et demi. Moi, j'ai toujours eu des chiens. Assez vite, quand on est arrivé ici avec un petit jardin, je me suis dit, ça y est, c'est le moment. Donc, j'ai commencé à faire pression sur Ilias, qui était beaucoup moins habitué que moi aux chiens, pour réussir à en adopter un.
Et comment s'est passée l'arrivée alors de Java dans votre couple?
C'est vrai que c'est tout d'un coup beaucoup de choses. Il faut rentrer chez soi à une certaine heure, il faut faire des allées et venues chez le vétérinaire, beaucoup de bouleversements. On dort pas forcément super bien au tout début parce que elle nous réveillait la nuit, elle vomissait parce qu'elle était très stressée, donc elle vomissait la nuit, etc. Donc voilà, il y a eu peut-être 15 jours un peu compliqués. Donc moi, ça m'a fait un petit choc. À un moment, je me suis surprise à me dire, bon, au pire, je peux la ramener. Ça me rassurait de me dire, bon, c'est pas comme un enfant quand même, je peux la ramener. C'est en plus un bouleversement un peu émotionnel, un peu... D'un coup, on prend conscience qu'on vient de prendre une décision qui, mine de rien, va changer un peu notre vie. Il y a un peu un parallèle quand même qu'on peut faire avec l'arrivée d'un enfant, même si sans doute l'ampleur est encore plus grande et puis les changements durent plus longtemps. Mais c'est vrai que ouais, j'avais pas du tout anticipé ça en fait.
Ah, t'as peur de ça? Viens, t'as plus peur de ça, je pense.
Je m'appelle Ilias, j'ai 33 ans, j'habite à Lausanne et je suis copropriétaire de Java.
Copropriétaire.
Co-maître de Java, on va dire.
Ou co-parent.
Pas encore.
C'est qui pour vous?
C'est un être qui fait partie de notre vie quotidienne. Moi, je ne pensais pas que ça remplirait autant une vie. C'est vrai que c'est vraiment un autre rapport, on va dire.
Laura, tout à l'heure, elle disait que ça a bouleversé quand même un peu votre vie, enfin sa vie en tout cas. Comment vous avez vécu ça, l'arrivée de ce chien?
Disons que moi, je m'y étais pas tellement préparé. C'est un peu ma stratégie parfois face aux choses. Pour moi, le bouleversement le plus grand, c'est plutôt par la suite. C'est-à-dire quand on commence vraiment à se dire bah, il faut lui apprendre un certain nombre de choses.
Et comment ça s'est passé alors, au niveau de l'éducation ?
On a pris quand même un peu d'aide, on a fait des cours avec elle pour chiot, on avait suivi une formation un peu en ligne, donc on s'est quand même un peu fait aider. Donc on était d'accord sur la méthode, on va dire, mais globalement, Ilias est plus persistant, on va dire, que moi. J'ai tendance parfois un peu à lâcher en me disant « bon, bah tant pis, c'est son petit défaut, on n'arrivera pas à la changer ». Donc pour ça, il y a eu des petites tensions. Moi, j'ai eu cette sensation un petit peu de déséquilibre à un moment où il fallait qu'on retrouve une forme de nouvel équilibre, en fait, à trois.
Et qu'est-ce que ça a changé au niveau de votre couple pour vous ?
C'est sûr que ça oblige un peu à plus coordonner ce qu'on fait. Donc moi, je trouve que ça rapproche quand même pas mal. Et puis, en effet, c'est clair que la responsabilité, ben, elle est collective ensuite. Donc je pense que ouais, ça renforce un peu le lien qu'on a, à mon avis.
Est-ce que là, vous vous sentez le papa de Java ? On peut dire ça ?
C'est clair que l'attachement, il est là, il est assez fort. Quand même, la différence principale, c'est évidemment ben, le type de relation. C'est clair que voilà, c'est un être qui parle pas, qui va pas se former plus intellectuellement qu'un peu ce qu'on a pu transmettre. Je pense que la limite, elle est principalement là. Puis c'est clair que les échanges sont pas du tout les mêmes qu'avec un enfant.
Alors, moi, je suis Christine, je suis la mère de Laura. Donc, je viens pour quelques jours de ma ville de Poitiers, dans l'ouest de la France.
Comment vous trouvez qu'ils évoluent ensemble, les trois ?
Eh bien, je trouve qu'ils ont trouvé un nouvel équilibre qui est bien établi, à mon avis. Un chien est tellement à l'écoute de son maître, tellement attaché à son maître. Il donne tellement d'amour et de joie que ça ne peut qu'enrichir, je pense, une relation de famille. C'est une forme de famille, indéniablement.
Et vous, vous considérez comment dans cette famille ?
Ah bah moi je suis. Alors je vais pas dire que je suis la grand-mère, justement, pas du tout, parce que je pense que c'est pas la même chose. Mais je suis ravie qu'ils aient ce chien et qu'ils en soient heureux. Je suis heureuse pour eux, réellement.
C'est clair que j'ai l'impression d'avoir une vie plus, ouais, peut-être plus heureuse et plus épanouie aussi. C'est clair que ça apporte vraiment pas mal de bonheur.
Vacarme.
On va jouer. Ça va. Viens là.
Bébé Poilu, c'était un reportage de Cécile During. Qu'en avez-vous pensé ? Dites-le nous au 058 134 134 0. Vous avez un chien, vous aussi ? Quelle place lui accordez-vous ? Celle d'un enfant, d'un ami, d'un doudou, d'un confident ? Vous n'avez au contraire pas de chien et n'en aurez jamais ? Dites-nous pourquoi au 058 134 134 0.
Vacarme, Raphaël Bouchet, Laurence Di Félix, Valérie Dantan et Stéphanie Coudray.
Demain, nous parlerons de deuil, parce qu'avoir un chien, c'est aussi accepter que souvent, il faudra l'accompagner jusqu'à la fin de ses jours.
J'ai un monsieur de Fribourg qui m'a contacté, qui m'a dit « ben voilà, moi j'ai plusieurs urnes de mes chiens à la maison, j'attends un endroit qui me plaise pour pouvoir les mettre ». Donc je trouve ça magnifique. Alors peut-être cet endroit ne sera pas sans convenance, mais peut-être que oui, puis peut-être qu'il trouvera enfin un endroit où il pourra venir se recueillir, où il sera heureux de laisser ses animaux.
À la vie, à la mort, un reportage à écouter demain dans Vacarme ou tout de suite sur le Play RTS, où les reportages de cette semaine sont déjà disponibles pour votre écoute.
M'attends pas, je t'atteins plus, je.
Tu disais.
Rien si, je sais plus, mes mots tu vois se sont perdus. Ils ont éclaté sur la foule, ils se sont heurtés à des murs, ils sont morts avant d'arriver, de t'arriver.
Tu disais.
Rien, absolument rien.
Je.
Veux des mots. je veux des mots pour te guérir. Je veux des mots pour apaiser.
Je vais partir, je suis à terre, je...
Tu disais...
Rien si, je sais plus, tes mots tu vois m'ont mis en guerre. Ils se sont heurtés à mon corps, ils ont éclaté sur mon cœur. Je suis morte, si je les laisse faire, leur sale affaire.
Tu disais...
Rien, absolument rien.
Je veux des mots pour te guérir. Je veux des mots pour apaiser. Et puis des mots pour alanguir. J'ai plus de mots pour te toucher. Ou je sais plus comment le dire. Je fais que passer à côté. J'ai que des mots qui font plus rire. Je veux des mots sans même parler. Des mots qui tiennent en un sourire. Des mots qui tiennent en un baiser. En un baiser. Qui tiennent en quelques souvenirs. Des mots sans mots.
Les bruits se sont endormis. Nous éveillons le son. RTS Première.
Dans le podcast Crime Suisse, je vous raconte des affaires criminelles qui sont arrivées tout près de chez vous. De Plan-les-Ouates à Zurich, de Tavannes à Lausanne, et au-delà de la violence, de la mort et du sang, il y a surtout des histoires qui racontent notre pays. Des histoires qui nous tendent un miroir. Je m'appelle Antoine Drou et je vous donne rendez-vous un vendredi sur deux dans Crime Suisse, un podcast disponible sur Play RTS et sur les autres plateformes d'écoute.
Tribu, Jérôme Timmerman.
Vous vous souvenez peut-être de certaines pubs, affiches, spots, des spots TV où Monsieur fait l'expert et sauve Madame tandis qu'elle est cantonnée à des tâches ménagères. Mais la publicité tente de s'affranchir au fil des années de ces caricatures parce qu'elle peut avoir une influence sur la perception, les stéréotypes qui circulent dans notre société. Et on aborde justement ce tournant ce matin à la lumière des rapports du protocole Gisler qui encourage la diversité dans les secteurs de la communication, du marketing. Laura Jenny, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Tribu, vous êtes directrice associée de l'agence Trio et représentante romande du protocole Gisler, donc qui décrypte chaque année les publicités suisses. Un mot d'abord justement sur ce protocole Gisler et sa fondatrice, je crois que c'était une personnalité importante.
Absolument, alors le protocole Gisler c'est une association qui a plus de 200 membres actuellement. Effectivement le nom en fait du protocole Gisler vient de Madame Doris Gisler, Trois, qui était une grande publicitaire et qui a notamment en fait participer à la campagne de 1969 qui a contribué de manière significative à l'introduction du suffrage universel féminin en Suisse.
Et vous disiez 200 membres du protocole Gisler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on leur demande? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur profil?
Alors ça peut être des agences de communication ou aussi des indépendants qui travaillent dans la communication, le marketing ou la publicité. Et en fait, on leur demande de respecter 5 valeurs qui font vraiment partie du protocole Gisler. C'est tout d'abord en fait des paroles aux actes. Donc c'est vraiment de s'engager à utiliser un langage inclusif. Aussi de cultiver l'égalité, l'égalité des chances et justement de promouvoir la diversité. C'est aussi de vivre avec son époque et de justement veiller à ne plus utiliser des clichés dans la publicité. C'est pour ça aussi qu'on fait cette analyse, pour aider à sensibiliser. C'est aussi pour changer les regards auprès de nos clients, mais aussi auprès de nos collaborateurs qui justement créent les publicités que l'on voit. Et le dernier point, c'est qu'une personne n'est pas une plante verte. Donc celui-ci, c'est vraiment pour lutter contre le fait qu'une personne ne soit pas là uniquement comme un rôle représentatif qui ne sert à rien, comme par exemple une plante verte.
Vous vous intéressez aux stéréotypes dans la publicité. Il y a un rapport maintenant chaque année qui est publié. Alors je crois que c'est depuis quelques années que vous le faites. Hein. Vous pourrez me le préciser.
Tout à fait.
C'est depuis le début des années 2020.
Depuis 2021. C'est la quatrième année, oui.
Comment est-ce que vous procédez? Qu'est-ce que vous analysez exactement dans ce rapport?
Alors en fait, on a établi une grille de 10 stéréotypes. Donc il y a 6 stéréotypes masculins et 4 stéréotypes féminins. Et chaque année, en fait, on analyse la présence de ces stéréotypes ou non dans toutes les publicités. Donc les spots animés que l'on retrouve en Suisse. Et puis, on les compare d'une année à l'autre pour voir en fait l'évolution de ces stéréotypes, enfin de la présence de ces stéréotypes dans les publicités.
Et quand vous dites spot animé, donc ça veut dire à la télévision évidemment, mais également sur les réseaux sociaux, ça peut être différentes plateformes.
Exactement, c'est différentes plateformes et on analyse justement les spots animés parce qu'il est important aussi de voir si les personnes que l'on retrouve dans les publicités s'expriment ou non.
Laura Jenny, vous intéressez à plusieurs types de stéréotypes, que vous venez de décrire, mais est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces stéréotypes masculins, féminins?
Bien sûr. Alors, par exemple, dans les stéréotypes masculins, on retrouve souvent celui qu'on a appelé that one funny guy. Donc, c'est l'homme drôle et extraverti. Ou encore le maître à l'œuvre, par exemple. Donc, c'est l'homme expert, muet, généralement de plus de 50 ans. Puis, du côté féminin, le plus souvent, celui qu'on retrouve, c'est la femme qui s'occupe de tout, des enfants, du ménage, ou encore, par exemple, la gourmande silencieuse, celle qui va, par exemple, déguster un yaourt sans dire un mot.
On en vient au résultat présenté en mars dernier dans le rapport 2024. Est-ce qu'il y a du progrès?
Oui, alors il y a pas mal de progrès. En 2024, c'est la première fois qu'on a vraiment observé un net recul de la présence des stéréotypes. L'année précédente, on avait près de 50% encore des spots analysés qui avaient des stéréotypes. Et en 2024, il n'y en avait plus que 16%. Donc c'est quand même déjà une belle avancée.
Alors, par rapport à 2023, vous le dites, c'est un résultat qui est bien différent. Donc, note positive, c'est du progrès. Vous restez quand même aux aguets ou qu'est-ce que vous en faites de ces chiffres ensuite?
Ce qui était très intéressant en 2024, c'était justement qu'on retrouvait toujours des stéréotypes, mais on retrouvait de plus en plus, par exemple, des femmes dans des rôles d'expertes qui étaient généralement plutôt attribués aux hommes par le passé. Et également, on retrouvait de plus en plus d'hommes aussi dans des rôles qui s'occupent de la maison, des enfants. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'équilibre au niveau des stéréotypes et ça c'est très intéressant.
Plus d'équilibre par rapport au rapport 2024 toujours. Quels sont les types de stéréotypes qu'on retrouve encore? Est-ce que ceux que vous nous décriviez auparavant figurent toujours dans le rapport? Qu'est-ce qui persiste?
Alors, ce qui persiste, on retrouve toujours évidemment pas mal d'hommes experts et la femme qui s'occupe de tout, c'est vraiment les stéréotypes qui viennent toujours en tête. Et dans la catégorie humour, là c'est vrai que les choses ne changent pas beaucoup, c'est encore très clairement dominé par les hommes. Il y a que 2 spots analysés où on retrouvait une femme dans un rôle plutôt humoristique.
Et puis, des stéréotypes qui ont radicalement disparu, ça vous en relevez en particulier?
Oui, justement, la gourmande silencieuse a quasiment disparu. Donc ça, c'est une très bonne chose.
La publicité, vous l'expliquez, met fréquemment en scène des protagonistes qui jouent des rôles d'experts, position historiquement occupée par des hommes. Est-ce que là, les fronts bougent? Est-ce qu'on attribue maintenant de plus en plus ce rôle aux femmes dans la publicité?
Oui, absolument. Et c'est là justement que c'est intéressant. Nous, notre objectif au sein de l'association, c'est pas de faire complètement disparaître les stéréotypes, mais plus de les faire en fait d'une manière plus réfléchie et consciente, et ainsi de mieux équilibrer en fait ces stéréotypes, afin que en fait ça représente plus la société dans laquelle on vit actuellement, où il y a quand même de plus en plus de femmes expertes et aussi des hommes qui s'occupent de tout.
Je reviens sur ce terme, Laura Jenny, la plante verte. Je crois qu'il y a carrément un test de la plante verte, si j'ai bien retenu. Est-ce que vous pouvez nous décrire, même si le nom est quand même bien trouvé hein, pour qu'on imagine de quoi il s'agit, ça donne quoi ce test de la plante verte?
Alors c'est, en gros, le test est positif si l'on retrouve une personne, et c'était très souvent une femme, dans un rôle purement décoratif. C'est-à-dire qu'on aurait pu remplacer cette personne par une plante verte, ça serait revenu exactement au même.
Vous écoutez Tribu sur RTS Première. Laura Jenny, directrice associée de l'agence Trio et représentante romande du protocole Gisler qui décrypte chaque année les publicités suisses diffusées TV, sur les réseaux sociaux, et notre invitée jusqu'à 11h30. Donc on parle de publicité animée. Quels sont les autres types de stéréotypes? Parce qu'il y en a des autres types de stéréotypes à prendre en compte dans une publicité. Cette dernière garde-t-elle encore une influence dans nos comportements, la propagation de biais en 2025? Et bien, on va aborder ces questions dans une poignée de minutes. Le temps d'écouter la proposition de notre programmateur musical Bastien Arnold, c'est Essa Mossata Differente, j'espère que je le prononce correctement, Chico Buarte. On se retrouve d'ici quelques instants.
Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se super modernizar. Ela só samba escondida, que é pra ninguém reparar. Eu cultivo rosas e rimas, achando que é muito bom. Ela me olha de cima e vai desinventar o som. Passo de um concerto de flauta e não me desperta emoção. Ela quer ver o astronauta descer na televisão. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça é a tal da janela que eu me cansei de cantar. E agora está só na tela, botando só pra quebrar. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Do lado esquerdo do peito, no fundo ainda me quer bem essa moça.
Buarque, sa mocha ta diferente à 11h14 sur RTS, RTS Première. On est de retour dans Tribu, une musique qui restera longtemps gravée dans les mémoires après les détournements de publicité des inconnus. C'est ce à quoi me fait penser notamment cette chanson qui pastichait des sodas un peu amers à l'époque. On est avec Laura Jenny, directrice associée de l'agence Trio et représentante romande du protocole Gisler. On l'a décrit en première partie, il décrypte chaque année les publicité suisse diffusée à la TV sur les réseaux sociaux. On parle ce matin des stéréotypes dans la publicité animée. Laura Jenny, parfois les stéréotypes sont volontaires, surtout avec la publicité qui est assez créative, volontaire, provocateur, à voix humoristique. Ça entre en compte dans vos statistiques et si c'est le cas, est-ce qu'il y a une case second degré en fait dans ce protocole?
Oui, bien sûr. En fait, vraiment l'objectif, c'est de pas tout le temps enfermer les hommes, les femmes dans une certaine case. Et du coup, évidemment, parfois, la dimension humoristique et second degré, on la prend aussi en compte. C'est vraiment, si c'est dans des rôles un peu d'une autre époque, qu'on retrouve, qu'on va vraiment analyser cela.
Mais pour un rappel, donc, par rapport à ce que vous nous disiez aussi en première partie, l'humour reste plutôt cantonné à la gente masculine.
Bien sûr, mais c'est vrai qu'historiquement, les femmes avaient des rôles plus sérieux, de mère au foyer, donc ça prend aussi du temps. On n'avait pas l'habitude de voir des femmes dans un rôle humoristique. Et puis c'est vrai que dans la scène de l'humour, dans le stand-up par exemple, c'est encore très dominé par les hommes aussi.
Vous êtes aussi penché sur d'autres dimensions de la diversité, par exemple la représentativité de l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle, les origines ethniques et puis les seniors. Bah, on va prendre ces catégories une par une hein, pour savoir ce qu'il en ressort, toujours par rapport au rapport du protocole Gisler évidemment. Laura Jenny, d'abord les couples homosexuels sont-ils représentés en suffisance ?
Oui, alors c'est vrai que dans la dernière étude, les couples homosexuels ont été retrouvés dans 10% des spots analysés. Donc ça correspond statistiquement à peu près à la réalité. C'est vrai que selon les chiffres qu'on a, l'hypothèse en Suisse, c'est que c'est entre 3 et 10% de la population qui s'identifie comme homosexuelle. Donc c'est plutôt représentatif pour la première fois cette année.
Donc vous cherchez cette correspondance entre la représentation dans les publicités à la part de population, mais vous cherchez pas forcément à établir s'il y a une représentation stéréotypée, juste pour précision.
Exactement. Dans ce cas-là, c'est de vraiment voir la présence de ces différentes catégories.
Ensuite, les gender queer.
Alors là, c'est vrai que les personnes gender queer, elles sont présentes dans seulement 2 des spots à analyser, ce qui correspond même pas à 1% finalement des spots. Et c'est vrai que là, selon les chiffres et les sondages qu'on a pu voir, il y a environ 13% de la population suisse qui s'identifie comme faisant partie de la communauté LGBTQ+. Donc là, c'est vrai qu'au niveau de la représentativité, elle est assez loin d'être assurée.
Bah, quand il y a ce type de constat, d'ailleurs, je fais juste une parenthèse avant de continuer dans ces catégories. Vous invitez les membres du protocole. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait comme communication pour le secteur du marketing, de la communication, pour qu'ils tiennent en compte ces manquements, ce manquement de représentativité?
Bah, notre objectif, c'est vraiment de faire un état des lieux chaque année, de communiquer ça aux membres, d'en parler aussi à nos clients, à nos collègues justement qui façonnent justement ces publicités, qui imaginent ces publicités simplement pour qu'il y ait une prise de conscience et qu'on fasse ces publicités de manière beaucoup plus réfléchie. Et notre objectif finalement, c'est vraiment d'être le plus représentatif possible de la population suisse actuelle, parce que finalement, quand on fait de la publicité, c'est pour toucher des potentiels clients, il faut aussi qu'ils puissent se reconnaître dans ce qu'on communique.
Je continue avec les différentes catégories. Il y a également la catégorie des personnes non blanches dans la publicité. Alors, qu'est-ce qui en ressort ?
Alors, là, c'est vrai que ça a un peu diminué, malheureusement, cette année, la représentativité des personnes perçues comme non blanches dans les publicités. Après, là, il est difficile de faire vraiment des comparaisons avec la population suisse, parce qu'on a plein de chiffres différents, et c'est assez compliqué de voir finalement qu'est-ce qui est considéré comme personne non blanche. Mais en tout cas, ce qui est positif, c'est que c'est vrai qu'auparavant, souvent les personnes perçues comme non blanches étaient des célébrités, par exemple des sportifs, et il y avait très peu de personnes anonymes, entre guillemets, que l'on retrouvait dans les publicités. Et puis ça a eu tendance vraiment à évoluer quand même dans le bon sens cette année.
Et on leur offre des positions de premier rôle dans les spots également ?
Exactement, elles sont plus souvent dans des premiers rôles et des personnes qui parlent et pas seulement présents pour être présents, pour entre guillemets la diversité.
Et puis une dernière catégorie sur laquelle s'est penché également le rapport du protocole Gisler, c'est celle des seniors. Là aussi, alors quelle proportion, quelle image ? Et puis on se demande, est-ce qu'ils sont aussi représentés positivement ?
Alors là, effectivement, ça c'est plutôt positif. C'est la première année qu'on a analysé aussi la présence des seniors dans les spots. Donc là, on a retrouvé des personnes seniors dans environ 15% des spots. Et puis selon les chiffres, c'est environ 19,3% de la population. Donc là, on est assez représentatif. Et ce qui était surtout très positif de constater, c'est que l'image est plutôt qualitative et positive. C'est qu'on retrouve ces personnes seniors comme pleines de vitalité et aussi intéressées par la vie. Et pas seulement, par exemple, comme des grands-parents inactifs.
Donc c'était ça le biais qu'il y avait auparavant, c'était plutôt des personnes en proie à des problèmes de santé, problèmes de mobilité, alors je sais pas, au niveau du caractère aussi, s'il y avait des choses qui transparaissaient dans les spots.
Exactement, après évidemment il faut qu'on ait aussi des personnes seniors dans les publicités, certains produits se prêtent aux seniors, mais c'est vrai que là on les voit de plus en plus dans des rôles vraiment actifs, et puis c'est aussi la réalité actuellement de la population, et c'est pas que des personnes inactives, surtout qu'on considère comme seniors à partir de 70 ans, donc c'est quand même des personnes encore pleines de vie, et ça c'est plutôt positif.
On a égrené ces différentes dimensions que vous observez pour ce rapport. D'ailleurs, vous m'expliquez en préparant l'émission que vous essayez d'en ajouter fréquemment, régulièrement, peut-être même chaque année. Est-ce que c'est le cas pour l'année prochaine ? Vous allez encore tenter d'ajouter d'autres dimensions ?
Exactement, chaque année on essaye d'ajouter une nouvelle dimension. Et là pour l'année prochaine, nous allons intégrer aussi, étudier en fait la présence des personnes en situation de handicap. C'est vrai que c'est une thématique qu'on n'entendait pas beaucoup parler. C'est vrai que L'année passée, avec aussi les Jeux paralympiques qui étaient à Paris, on en a beaucoup plus parlé aussi en Suisse romande et puis en France. Également le film Un petit truc en plus, qui a aussi pas mal sensibilisé. Donc c'est vrai que tout est un peu lié, hein, ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on voit au cinéma, à la télévision. Ça influe aussi finalement sur le regard des gens.
Laura Jenny, pourquoi ce besoin d'observer encore la publicité? Là, j'ai un plus un peu dans le fond de société. Est-ce que ça influence encore les gens aujourd'hui? Comme on a pu le dire il y a quelques décennies en arrière, on cherchait à obtenir des secondes pour des grandes marques de soda, de cerveau disponible.
Bien sûr, la publicité a forcément encore une influence sur comment on se représente justement les personnes, les stéréotypes, tout comme le cinéma, tout comme les médias, tout comme les magazines, c'est vraiment tout ce qu'on va pouvoir lire et évidemment actuellement beaucoup les réseaux sociaux. Donc c'est important aussi d'avoir ce regard-là et de prendre un petit peu de recul pour faire attention de ne pas continuer à véhiculer des stéréotypes qui ne sont plus du tout d'actualité en 2025.
Donc vous pensez que ça influence réellement ces clichés, quand on les trouve dans la publicité, les comportements sociaux?
Bien sûr. Et puis c'est important aussi actuellement avec notamment la génération Z qui c'est maintenant les consommateurs vraiment de demain et qui consomment déjà maintenant. C'est aussi des valeurs qui sont hyper importantes pour cette génération-là. Et donc c'est d'autant plus important que les marques soient sensibles à ça pour toucher aussi cette génération-là.
Il y a des grandes différences d'ailleurs dans les types de campagnes, celles qu'on voit encore sur les TV et celles qu'on peut visionner sur les réseaux sociaux, dans les traitements, le vocabulaire et peut-être dans les stéréotypes qu'on peut trouver d'une part ou d'une autre. Est-ce que vous voyez qu'il y a une frontière ou est-ce qu'elle tend peut-être à diminuer?
Oui, alors elle tend à diminuer. Après, évidemment, ça dépend à quel public cible on s'adresse. Et puis, c'est vrai que les plus jeunes générations sont sensibles à d'autres valeurs maintenant que des seniors, par exemple. Donc là aussi, forcément, la publicité doit s'adapter à la manière de communiquer avec ces publics cibles-là pour pouvoir les toucher de manière adéquate.
Et vous parlez justement public cible. Alors, la publicité sur les réseaux sociaux essaye en général, ou la publicité sur Internet, de cibler exactement un public qui pourrait correspondre au contenu. Donc, elle peut avoir un impact encore plus fort dans une certaine mesure si on cible des consommateurs, des consommatrices particuliers.
Bien sûr, tout à fait. Après, il y a plusieurs types de réseaux sociaux actuellement et ils sont pas du tout que destinés aux jeunes. Par exemple, Facebook maintenant est utilisé plutôt par une catégorie de personnes plus âgées, TikTok beaucoup plus jeunes. Après, il y a un petit peu de tout sur tous les réseaux, mais on sait quand même qu'il y a certains réseaux sociaux qui sont plus consommés par certaines générations. Et du coup, on va évidemment aussi adapter nos publicités et puis la manière de communiquer à ces différents publics cibles et ces réseaux sociaux.
On vit également une période d'infobésité et on est énormément spectateurs, spectatrices de messages publicitaires. Finalement, pour se démarquer, certaines marques, j'en reviens un peu au second degré, mais je vais même un cran plus loin, certaines marques pourraient avoir envie de jouer à fond sur ces stéréotypes pour créer un buzz positif, négatif. Ça, comment le percevoir quand vous devez établir le rapport du protocole Gisler?
Oui, alors c'est un sujet quand même délicat aussi, parce qu'il faut faire attention aussi, parce que ça peut aussi heurter certaines personnes, et en tant que marque, on doit quand même faire attention à comment on communique. Alors évidemment, certaines utilisent un peu le bad buzz, parce que finalement, un buzz, ça fait toujours parler de la marque, que ça soit dans le positif ou dans le négatif, donc ça peut aussi être une stratégie, mais il faut aussi faire attention à ne pas se faire boycotter après, si on veut aller trop loin.
Vous parlez de la responsabilité, Laura Jenny, des agences, celles qui sont par exemple membres ou celles à qui vous communiquez la part de stéréotypes qui persistent, qui circulent toujours dans les publicités. Alors effectivement, il y a les agences d'un côté, mais il y a également leurs clients, ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils demandent. Comment est-ce qu'on les intègre alors quand on est de l'autre côté de la chaîne et qu'on essaye de lutter contre ces stéréotypes et qu'en général le client décide?
Oui, justement, c'est une de nos 5 valeurs, c'est de changer les regards et de sensibiliser justement aussi nos clients. En fait, ce qu'on s'est beaucoup rendu compte, que la plupart des stéréotypes, en fait, c'était vraiment inconscient. Parce qu'en fait, ça fait tellement d'années qu'on voit ces stéréotypes à la pub, dans les publicités, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le cinéma, que c'est vraiment ancré en nous. Et en fait, le fait de les sensibiliser, de prendre un petit peu de recul et d'en parler avec eux, ils se rendent compte en fait qu'on véhicule un certain nombre de clichés. Et généralement, la discussion se passe quand même assez bien.
L'objectif du protocole Ghislard, alors vous m'expliquiez également ce que vous faites des rapports hein, pour le diffuser, pour que on puisse prêcher les bonnes conduites pour retirer ces stéréotypes. Mais en quelque sorte, l'objectif, ce serait de ne plus avoir besoin un jour de ces rapports, de ne plus avoir besoin d'exister dans une certaine mesure. Je fais un peu l'analogie avec les Restos du Cœur, si on n'en a plus besoin un jour, c'est qu'il n'y a plus de problème. Est-ce que ça tend vers ça finalement ou est-ce que... Pas forcément.
Alors c'est vrai que quand on voit l'évolution en 4 ans, ça a quand même déjà bien évolué dans le bon sens. Donc on espère quand même qu'un jour on n'aura plus besoin de sensibiliser sur certains stéréotypes. Cependant, comme on peut le voir, la diversité c'est pas juste le genre homme-femme. Et c'est vrai qu'il y a plein d'autres dimensions. Et notamment, c'est vrai que quand on regarde par rapport aux personnes en situation de handicap, donc la dimension qu'on aimerait intégrer l'année prochaine, ils sont encore très très peu présents dans les médias.
La liberté créatrice dans tout ça, est-ce que vous ne sentez pas un peu bridé quand vous devez créer du contenu avec ce cahier des charges qui vient s'ajouter à des fois pas mal de requêtes qui peuvent préexister quand on va créer une campagne?
Bien sûr, ben, y a plein de dimensions à prendre en compte, hein, tout comme par exemple dans tous les aspects de la durabilité par exemple, c'est quelque chose que ça fait maintenant plusieurs années aussi qu'on l'intègre, c'est faire attention à toutes ces dimensions-là, mais on peut toujours être créatif et en fait il y a toujours des manières de se réinventer et d'être créatif tout en faisant attention à ces dimensions-là.
Je profite de votre présence, Laura Jenny, pour vous demander, vous poser une question sur la pub de demain. Encore plus ciblée que ce qu'on évoquait jusqu'ici, il y a des grandes tendances qui se dessinent et qui peuvent peut-être laisser présager du bon par rapport à la fin de ces stéréotypes ou peut-être des risques justement qui pourraient... parce qu'on sait qu'il y a des biais, par exemple, je pense à l'intelligence artificielle qui commence à être intégrée petit à petit.
Oui, alors la publicité de demain risque effectivement de revenir avec des stéréotypes. On a d'ailleurs vu que les premières IA, alors ça tend déjà maintenant à s'améliorer un petit peu, mais c'est vrai que les premiers prompts qu'on générait, l'intelligence artificielle reprenait tout ce qu'elle trouvait, du coup avait tendance à refaire des stéréotypes. Par exemple, on disait « génère-moi un ou une dirigeante », c'était systématiquement un homme blanc de plus de 50 ans qui allait ressortir. Ou par exemple, « génère-moi un voleur », c'était une personne de couleur qui ressortait. Donc c'est quand même assez dramatique dans un sens qu'on a évolué d'un côté et que l'intelligence artificielle a tendance à revenir avec des stéréotypes. Donc c'est vrai que ça c'est un risque auquel on doit faire attention, mais évidemment après il y a quand même toujours l'homme derrière. Donc il faut qu'on fasse attention à ça. Et puis par rapport à votre question sur de plus en plus ciblé, évidemment on doit être de plus en plus ciblé. Parce que tout simplement, on a tellement de canaux actuellement qu'il faut pouvoir vraiment toucher son public au bon endroit.
Un petit bilan, recul des stéréotypes, on l'a évoqué en détail, c'est votre mission de sensibilisation qui remplit son rôle, c'est comme ça que vous accueillez ces résultats du rapport?
On l'espère évidemment, c'est difficile à prouver, mais c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais je pense que c'est aussi et surtout une prise de conscience générale au niveau de la branche et au niveau de la population.
Rendez-vous probablement mars 2025 pour la publication du prochain rapport pour voir si ça continue d'évoluer. On arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup Laura Jenny, directrice associée de l'agence Trio, représentante romande du protocole Ghislard, donc qui décrypte, je le rappelle, chaque année les publicités suisses diffusées, TV, réseaux sociaux, les publicités animées. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous souhaite une excellente journée.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Tribu, Jérôme Timmerman.
Time will take.
Les émissions de la journée pour accompagner vos nuits. RTS Première, il est 1h.